Universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Jean-Roger Billon à ce micro. Dans moins de 5 minutes, le dialogue des religions. Idrissa Seydoudia sera en direct pour parler de Boko Haram, le groupe islamiste qui sévit au Nigeria. Mais tout d'abord, un bulletin d'information. En République centrafricaine, c'est une journée sans presse aujourd'hui avec une marche des journalistes à Bangui pour réclamer plus de sécurité et le désarmement des groupes armés. Par ailleurs, au moins 13 personnes ont péri hier dans un affrontement à Kaga, Bandoro, au centre nord du pays. Les Sud-Africains sont allés aux urnes aujourd'hui dans le cadre législatif. Le scrutin s'est déroulé sans incident majeur selon les autorités. Toute chose que nous confirme ici, la journaliste Emily Yob, jointe à Johannesburg à moins d'une heure de la fermeture des bureaux de vote.
Il y a eu des tensions, effectivement, ces dernières semaines, et notamment hier, où dans un township de Johannesburg, il y a eu des émeutes assez violentes. Eh bien, des mesures de sécurité ont été prises. L'armée a été envoyée dans cet endroit en particulier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, aucun incident majeur n'a été rapporté, en tout cas pour l'instant. Le taux de participation a été très élevé dès ce matin. Dès l'ouverture des bureaux de vote, il y avait des longues files d'attente. Les gens n'ont pas hésité à attendre plus de 2 heures en moyenne pour aller voter. Et je suis passée encore en bureau de vote. Il y a quelques instants, il y avait toujours une longue file d'attente. Donc les Sud-Africains se sont déplacés massivement aujourd'hui pour aller voter. Les premiers résultats provisoires sont attendus dans la nuit. Les résultats finaux sont attendus samedi.
Emily Yob à Johannesburg. Les États-Unis ont félicité les Sud-Africains pour la tenue de ces élections nationales et provinciales, selon une note du département d'État. Des centaines de personnes auraient trouvé la mort lundi lors d'une attaque dans le nord du Nigeria. D'après les autorités locales, des militants ont pris d'assaut Gamboru Nangala, près de la frontière avec le Cameroun. Ils ont mis le feu à des maisons, au plus grand marché de la ville et à un poste de police. Cette attaque intervient alors que le Nigeria est toujours sous le choc suite à l'enlèvement des centaines de jeunes filles le mois dernier par les islamistes de Boko Haram. La police offre une récompense de 300 000 dollars pour toute information permettant de les localiser et de sauver les adolescentes kidnappées. La France a annoncé l'envoi d'une équipe spécialisée au Nigeria pour aider dans les recherches. Hier, les États-Unis ont aussi annoncé l'envoi d'agents de renseignement pour aider Abuja à retrouver ces jeunes filles. Et toujours au Nigeria, le 24e forum économique s'est ouvert ce mercredi, aujourd'hui donc à Abuja, la capitale fédérale, Camille Gros-Didier.
13 chefs d'État et 1000 délégués sont au rendez-vous d'Abuja pour ce Forum économique mondial pour l'Afrique, surnommé le Davos africain. 70 pays sont représentés, dont la Chine, par son premier ministre. Ce Forum économique mondial a pour thème « Bâtir une croissance inclusive et créatrice d'emplois avec l'espoir d'une meilleure coopération entre pays africains en matière de commerce, d'innovation ». La rencontre doit se terminer vendredi. La capitale fédérale est sous haute surveillance policière car le Nigeria subit des violences récurrentes attribuées aux islamistes armés du groupe Boko Haram. D'ailleurs, une attaque lundi contre la localité de Gamboru Nangala, à la frontière du Cameroun, aurait fait des centaines de morts pendant que les recherches continuent pour retrouver des centaines de jeunes filles enlevées depuis le 14 avril.
La Thaïlande a un nouveau premier ministre intérimaire après la destitution de Yingluck Shinawatra et de plusieurs membres de son cabinet par la Cour constitutionnelle du pays. Il s'agit du ministre du Commerce Niwat Thamrong Buson Phaisan. Selon la Cour constitutionnelle thaïlandaise, Yingluck Shinawatra avait violé la constitution quand, pour son propre profit, elle a été relevée de son poste. En 2011 le chef de la sécurité nationale pour y mettre un de ses proches. Le président russe Vladimir Poutine exhorte les pro-russes de l'Est de l'Ukraine à reporter le référendum prévu ce dimanche sur le rattachement de leur territoire à la Russie. Le vote du 11 mai vise à faire de la région de Donetsk une république populaire indépendante. Après un entretien à Moscou avec Didier Burkhalter, président de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, M. Poutine a indiqué que sa requête aux éléments séparatistes vise à créer les conditions nécessaires pour un dialogue avec le gouvernement ukrainien. Et puis, en Syrie, des centaines de rebelles ont entamé leur retrait de la vieille ville de Homs, assiégée par les troupes de Bachar al-Assad. Cela a été rendu possible par un accord de cessez-le-feu qui remet cette zone sous le contrôle du gouvernement moins d'un mois avant la présidentielle. Vous écoutez La Voix de l'Amérique dans un instant, le dialogue des religions.
et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir à tous et à toutes au micro, Idrissa Seydoudia. Dans le dialogue des religions de ce mercredi 7 mai 2014, l'enlèvement le 14 avril dernier par Boko Haram de dizaines de collégiennes dans l'état de Borno au Nigeria. Certaines ont réussi à s'échapper, deux ont été tuées, dit-on, par des serpents. Mais on est toujours sans nouvelles d'au moins 276 jeunes filles. Dans une vidéo, le leader de Boko Haram, Aboubakar Shekau, a revendiqué la responsabilité de l'enlèvement et menacé de vendre les otages. Selon diverses sources, certaines auraient déjà été données en mariage à des militants ou amenées hors du Nigeria. Boko Haram, qui veut instaurer une version stricte de l'islam, la charia, la loi islamique, dans le nord du Nigeria, a enlevé les collégiennes pour notamment les empêcher d'étudier. On annonce aujourd'hui que des centaines de personnes ont péri lundi lors d'une attaque dans le nord du Nigeria. Nos invités ce soir, le professeur Tondonou Amosu, ancien vice-recteur de l'Université de l'État de Lagos à Lagos. Professeur, est-ce que vous nous entendez? Merci, bonsoir. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Et nous aurons aussi de New York, nous l'espérons, votre homologue, le professeur Souleymane Bachir Diagne de Columbia University. Et nous aurons vos questions et commentaires, chers auditeurs, sur Facebook avec Timothée de Langmaï. Et vous pourrez intervenir en direct dans un instant. Pour commencer, assurément, ces événements ont choqué la conscience du monde et des manifestations ont été organisées dans diverses capitales du monde pour protester contre cette cruauté indicible et réclamer la libération des jeunes filles. Comme vous l'avez entendu dans nos bulletins d'information, le président Barack Obama a été lui-même interrogé sur cette affaire qui a provoqué un tollé dans les médias sociaux. Les États-Unis vont envoyer une équipe d'experts au Nigeria pour aider dans la recherche des collégiennes et la France a annoncé qu'elle mettait une équipe spécialisée à la disposition du Nigeria. Londres apporte également son soutien à Abuja. Alors, nous allons directement au Nigeria pour y retrouver le professeur Tondonou Amosu. Professeur, Parlez-nous d'abord de ce mouvement Boko Haram, quand il est apparu au Nigeria et ce qu'on lui reproche depuis.
Eh bien, Boko Haram est apparu il y a quelques années, à peine 5 ans au Nigeria, mais au début on croyait que c'était tout simplement des gens qui voulaient manifester tout simplement leur désaccord avec certaines pratiques de la part des musulmans du pays. Et puis, tout de suite, c'est devenu un mouvement qu'on n'a pas su mater. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est le dérapage complet. Ce qui fait que désormais, tout le monde est au courant et il paraît qu'ils vont. C'est devenu quelque chose de plus qu'une aberration. C'est quelque chose qui gêne tout le monde et qui a fini par vraiment perturber. N'est-ce pas, toute activité au Nigeria, en particulier dans la capitale et au nord du Nigeria, où excusez le terme, des énergumènes, parce que je ne saurais pas les qualifier autrement.
Professeur, le monde, sans doute le reste du monde, n'a entendu parler de Boko Haram que depuis l'enlèvement de ces jeunes filles. Mais ce mouvement a commis pas mal d'atrocités dans le pays, des attaques contre des marchés, des églises, enfin, toutes sortes d'atrocités.
Oui, effectivement, les atrocités au début, on croyait qu'on pouvait quand même venir à bout de tous ces gens-là. Et c'est pourquoi le monde n'en a pas entendu parler jusqu'au moment où on a enlevé ces collégiennes. Rappelez-vous qu'il y a déjà 2-3 ans de cela, ils ont commencé. Il y a eu beaucoup d'attentats. Le siège des Nations Unies à Abuja aussi a été attaqué. Il y a eu l'attentat contre le siège de la police. Il y a eu toutes sortes d'atrocités de la part de Boko Haram. Mais le comble, c'est à partir du moment où il y a eu cet attentat contre une gare routière, avec récidive encore 3 semaines après. Et puis, il y a eu l'enlèvement de toutes les collégiennes avec d'autres formes de violence, comme ce qu'on a vu hier, justement, tout près de la localité où ils ont enlevé les collégiennes. Et ce qui fait qu'il y a désormais une prise de conscience, je dirais, mondiale, dans ce sens que désormais les autorités d'Abuja du Nigeria sont bien obligés de reconnaître qu'on a un problème qu'on ne peut pas résoudre du jour au lendemain et qu'il va falloir recourir aux grands moyens. Vous savez qu'il y a le volet religieux, ce qui fait qu'au départ, on n'était pas très sûr de la manière dont il fallait vraiment combattre ce fléau, parce que la sensibilité est telle que tout le monde se dit, voilà, on va essayer de partager avec eux, on va essayer de dialoguer. Mais maintenant, tout le monde comprend que le dialogue n'entre pas du tout dans une solution définitive à ce problème. D'où le recours aux grands moyens. Et bien évidemment, avec le lever de bouclier de la part de tout le monde, les Américains, les Anglais, les Britanniques et partout, évidemment, j'ai l'impression que les choses bougent et il était grand temps que les choses bougent, effectivement.
Alors, un auditeur en direct. Allô? Présentez-vous et posez votre question. Allô?
Oui, je m'appelle Jeffy. Allô?
Oui,
je
allez-y.
Je m'appelle Jeffy, je suis au Kasaï occidental, précisément en RDC. Je voulais un peu demander pour ce qui vient d'être lancé sur Facebook. On nous a dit que les Congolais de Brazzaville, ainsi que les Congolais de la RDC, tous ces deux pays-là. Donc il y a une contradiction, donc les gens se battent.
Je crois que vous vous trompez de programme, parce que là, on parle de Boko Haram au Nigeria. Alors, professeur, dites-nous la réaction. Vous y avez fait allusion brièvement, les autres qui n'osaient pas trop dire au début ce qu'ils pensaient de Boko Haram. Justement, puisque Boko Haram se réclame de la religion, de l'islam, et que le Nigeria, je connais pas mal de collègues nigérians qui sont vraiment dédiés à l'islam et autres, et j'ai entendu des commentaires très durs vis-à-vis de Boko Haram. Alors, comment se fait-il qu'on n'entend pas beaucoup les leaders religieux eux-mêmes au Nigeria ?
La bonne et simple raison que quand les leaders religieux commencent à parler, évidemment tout le monde finit par comprendre ce qui se passe. Ceux qui en parlent, évidemment ce n'était pas des leaders religieux et que leur opinion ne comptait pas tellement. Maintenant, ce dont il s'agit ici, c'est de bien comprendre que Boko Haram prônait une religiosité à outrance avec l'application très stricte de la charia, donc justement le refus d'envoyer les jeunes filles à l'école. Alors, quand vous avez des femmes analphabètes, moi je conçois difficilement que dans une famille toutes les filles soient analphabètes. Or, c'est ce que demandent justement les gens de Boko Haram. Avec ceci que tous ceux qui étaient contre leur opinion, ils risquaient quand même pas leur vie. Et ce qui fait que très souvent, les gens préféraient se taire, surtout les prêtres musulmans. Et ce qui fait que, on avait du mal à comprendre que personne, ceux qui auraient dû élever la voix, ne l'aient pas fait jusqu'ici. Mais maintenant que le vase est débordé et tout, évidemment tout le monde trouve la voie. Rappelez-vous également qu'à un moment, je crois que le chef traditionnel, l'ennemi de Canon, il était contre, il s'était prononcé ouvertement contre le Boko Haram, mais il a fallu perdre la vie. Donc, évidemment, ceux qui voulaient parler, ils devaient faire très attention pour ne pas attirer la foudre de ces gens-là.
Et alors,
qui, d'ailleurs, ne reculent devant rien pour agir.
Merci, professeur. Une autre question d'un auditeur. Présentez-vous. Allez-y.
Alors, je m'appelle Jefté Nganga. Je posais un peu la question pour savoir, quand ces filles-là ont disparu, où se trouve l'ONU? Parce que c'est bien lui qui a toujours donné la paix au pays, comme on nous a toujours dit, même à l'école, on nous enseigne, l'ONU nous donne la paix. Donc, comment est-ce que l'ONU va faire attention à ça et on laisse ces filles-là, ces jeunes filles-là, ils sont portés disparus. On ne sait pas jusqu'alors où elles sont. Où se trouve l'ONU et quel est son rôle?
Professeur, vous pouvez répondre à cette question?
La manière dont je conçois l'ONU, c'est que l'ONU doit prêter main forte au gouvernement en place. Et que, en fait, s'il y a quelque chose qu'on pourrait reprocher aux autorités d'Abuja, c'est que dans un premier temps, c'est comme si on n'avait rien fait. En tout cas, les gens avaient l'impression que le gouvernement n'avait rien fait. Et effectivement, c'est au moment où tout le monde a commencé à en parler qu'on a compris la gravité de la situation. Maintenant, si l'ONU doit intervenir, évidemment, ce sera toujours avec l'accord des autorités d'Abuja. Vous ne pouvez pas, au nom d'une autorité, l'ONU n'a pas intervenu tout simplement parce que... elle croit que c'est son devoir. Il faut encore que les autorités soient d'accord. Et maintenant que tout le monde s'est mis d'accord sur ce qu'il faut faire, évidemment, l'ONU pourra intervenir, mais je crois que cela se sera toujours avec l'aval des autorités d'Abuja.
Professeur, est-ce que vraiment il y a des gens qui prennent au sérieux les bases religieuses de ce Boko Haram?
Si les gens prennent au sérieux Boko Haram, c'est tout simplement que Boko Haram a bien démontré sa capacité de nuire et que quelquefois sont collégiennes qui disparaissent et dont on n'a plus de traces depuis 3 semaines, avouez quand même que ça fait peur. Surtout au niveau des parents et tous ceux qui ont des collégiennes. Et franchement, aller étudier maintenant au Nord, c'est un peu trop risqué. Or, nous savons qu'il faut toujours penser à l'idée que le pays qui va avancer, ça commence avec l'éducation des filles. Moi, je serais le dernier à imaginer qu'un jour, on va interdire aux filles d'aller à l'école. S'il n'y a pas de collégienne, c'est dangereux pour un pays. On l'a bien compris. Et par conséquent, moi, je vois difficilement comment on pourrait admettre que Boko Haram puisse imposer son point de vue. C'est vraiment trop farfelu, quoi.
Professeur, restez à l'écoute. Je rappelle que vous êtes à l'écoute de la Voix de l'Amérique et du dialogue de religion. Nos invités aujourd'hui, le professeur Tundonu Amosu, ancien vice-recteur de l'Université de l'État de Lagos à Lagos, et nous comptons avoir son homologue de Columbia University à New York, Suleiman Bachir Diagne, auteur du livre « Islam et société ouverte, la fidélité et le mouvement dans la philosophie de Mohamed Iqbal ». En attendant de les retrouver, quelques-uns de vos commentaires sur Facebook, lus par Timothée Donangmaï.
Nous commençons par Cédric Toubadi qui écrit « Ces gens sont des détraqués, des lâches pour s'en prendre aux jeunes filles sans défense. Qu'ils relâchent vite ces enfants, sinon ils auront toute la communauté internationale à leur trousse, bande d'athées. » Alabira Lugman lui écrit « Le mariage forcé n'est pas islamique. Boko Haram n'a pas agi au nom de l'islam. C'est une organisation qui ternit l'image de notre religion. » Autre intervention de Cédric Toubadi, ils disent agir au nom d'Allah, mais nous savons qu'Allah est tout-puissant pour imposer s'il le faut sa volonté aux fils des hommes, au Nigeria et partout ailleurs. Il n'aura pas besoin des services de M. Aboubakar et de sa bande de drogués. Brian Kouadio, la revendication de Boko Haram se trouve ailleurs. L'islam prône la paix et non la violence. Nous avons aussi Willy qui écrit « Boko Haram a montré sa capacité de nuisance et le gouvernement nigérian paraît impuissant face à ce groupe terroriste. Je pense qu'il est plus que temps de privilégier le dialogue avec Boko Haram pour préserver des vies humaines. Willy Nyonsaba de Goma écrit « Boko Haram a montré sa capacité de nuisance et le gouvernement nigérian paraît impuissant face à ce groupe terroriste. Je pense qu'il est plus que temps de privilégier le dialogue avec Boko Haram pour préserver des vies humaines. » Yahya Chaibou écrit « Le Coran dit « Nulle contrainte en religion, mais aussi toute personne qui tue une vie innocente, c'est comme si elle a tué toute l'humanité. » Et aussi, toute personne qui sauve une vie, c'est comme si elle a sauvé toute l'humanité. Donc, avec ces deux versets, je dirais qu'ils ont mal compris l'islam. Notre ami Richard Zongo se demande pourquoi les islamistes aiment dire « guerre sainte ». Dieu a-t-il dit de tuer ? Ils ne doivent plus mettre le nom de Dieu dans ce qu'ils font, car Dieu n'a pas dit de tuer. Pourquoi aiment-ils la discrimination ? Il y a aussi Chris Gérard qui témoigne « J'étais en larmes quand j'ai écouté l'extrait du discours de cet imposteur à la radio. Qu'attend le gouvernement nigérian pour réagir afin de sauver ces innocentes ? » Nous passons à Parfait Degbe Escalibur qui écrit « Je pleure tous ces barbarismes, ces actes ignobles et dégoûtants de la part de ce groupe Boko Haram. Si c'était leur propre fille qu'un individu inconnu enlève et marie aussitôt ou mettait sa tête à prix, accepterait-il ? Une chose est sûre, le gouvernement nigérian ne peut rien sans l'aide extérieure, venant surtout des États-Unis d'Amérique, qui connaissent beaucoup à propos du terrorisme.
Merci Timothée Donangmaï. Avant de passer la parole à Pascal Sy, professeur, quelle impression vous tirez de ces commentaires ?
Eh bien, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi, en tout cas, enfin, tous ceux qui ont la pensée bien droite, qui sont par, comme disait quelqu'un, drogués, hein, devaient comprendre que d'abord, il y a quelqu'un, il y a un ami qui m'a donné un exemple du courant, et là, j'ai vu effectivement aucune contrainte en religion. Et à partir de cette idée, je ne vois pas pourquoi, comme je vous l'ai dit, ces drogués auraient l'idée que tout le monde serait obligé de les suivre. La religion, en tout cas pour moi, il n'y a pas de contrainte en religion et que ce sont tout simplement c'est une bande de criminels et que le moment venu, évidemment, ils auront quand même ce qu'ils méritent. Parce que franchement, il y a des familles aujourd'hui qui pleurent leurs jeunes filles alors que tout le monde avait l'idée qu'avec les jeunes filles à l'école, c'est mieux pour la famille, c'est mieux pour tout le monde. Moi, j'imagine mal quelqu'un qui pourrait reprocher à ma fille d'aller à l'école. Franchement, c'est pas de ce monde, quoi.
Merci, professeur. Maintenant, Pascal Sy a une question ou un commentaire. Pascal ? Pascal ? Allez-y. Pascal, on a perdu Pascal. Alors, professeur, étant donné que les États-Unis ont décidé de, ont offert d'abord au gouvernement nigérian d'aider, avec même des drones de surveillance pour pouvoir aider à retrouver ces jeunes filles, on connaît les sensibilités nationales, j'allais dire nationalistes en Afrique. Est-ce que accepter l'aide des États-Unis et possible aussi celle de la Grande-Bretagne et de la France ne signifie pas un aveu d'impuissance de la part du gouvernement nigérian ? Professeur ?
La réalité de la situation est telle qu'il faudra quand même essayer par tous les moyens, et je dis bien tous les moyens, de résoudre ce problème. Et que, en matière de sensibilité, je reviens qu'il y ait de sensibilité nationaliste, mais quand il y a la vie de quelques fractions collégiennes, n'est-ce pas, quand il faut penser à la vie de ces jeunes filles, je ne vois pas pourquoi on aurait encore des idées de cette manière. De toute façon, quand on trouve d'abord les jeunes filles, qu'on règle le problème, et puis le reste, on va en parler. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas tellement que les Américains, les Français, les Anglais viennent mettre le nez dans les affaires. Mais à partir du moment où il y a quand même une sorte d'avoue d'impuissance, il faut trouver autre chose. L'idée que, bon, que notre pays est à nous pour régler les problèmes, franchement, Moi, je ne vois pas pourquoi on pourrait tenir un discours pareil, parce que le temps passe, et plus le temps passe, mais plus évidemment, les familles ils vont avoir encore plus de désespoir. Et voyez-vous, il est très urgent de trouver une solution radicale, définitive à cette question.
Une question de Chris Mouteba. Chris, allez-y. Chris?
Oui, allô, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, ma question était celle de savoir quelles sont les avancées que le gouvernement nigérien pouvait mettre en jeu. Bon, au fait, par rapport à cette situation, quelles sont les avancées du gouvernement nigérien? Et à mon sens, je pense que le président est vite passé en besogne pour directement faire appel à la communauté internationale. Il aurait eu raison, mais à demander directement même une intervention militaire et tout ça, moi je ne sais pas. Qu'est-ce que lui a mis d'abord en jeu au départ?
Professeur, vous avez compris la question?
Oui, au départ, le gouvernement pensait pouvoir trouver une solution, un peu de dialogue, un peu de tout, quoi. Mais vous voyez que maintenant, le temps passe et on voit que la situation est tellement dégradée qu'il faut recourir aux grands moyens. Et cela est d'autant plus difficile que nous avons affaire à des adversaires qui ne veulent pas, s'engager, dans une bataille loyale. C'est-à-dire, ce sont des gens qui se cachent, qui sont capables de toutes sortes de trahisons et autres, et qui s'en prennent justement à des gens sans défense, aller s'attaquer à des collégiens, c'est ce qui s'est passé il y a quelques mois, et encore à des collégiennes, je ne vois pas où est l'honneur justement de ces Boko Haram. En tout cas, je parle de l'honneur ne figure pas dans le vocabulaire. Dans l'attachement à je ne sais quelle religion, qu'on refuse les bons musulmans d'ailleurs, là, ils pensent qu'ils vont peut-être raison, mais je ne vois pas pourquoi quelqu'un pourrait leur donner raison. C'est absurde.
Professeur, il y a une question quand même qu'on devrait vous poser. Je suis sûr que ça n'a absolument rien à voir avec les horreurs que l'on voit, mais étant donné l'histoire du Nigeria, je suis sûr qu'il y a certains qui se demandent si le fait d'avoir un président chrétien n'a pas donné un avantage à ces assassins, dans la mesure où... Je sais pas, enfin, vous voyez où je veux en venir.
Non, laissez-moi vous dire ceci. Il est certain que, bon, il y a des préférences selon que vous êtes dans le côté du pays, je ne sais quoi. Mais toujours, en président chrétien, ce n'est pas la première fois qu'on a un président chrétien, on va s'en dire lui aussi. Il était chrétien. Et je sais que les choses ne se sont pas passées de cette manière. Je crois que le problème, si effectivement il y a problème, c'est que les Boko Haram, ils avaient profité, justement, de l'apathie d'une certaine partie de la population du Nord par rapport au gouvernement en place. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de réaction au début. On aurait dû réagir dès l'apparition de Boko Haram, comme le gouvernement central avait fait au moment de Maïtachine et autres, quand il y a eu la première grande rébellion à caractère religieux. Donc, le fait qu'on ne soit pas un chrétien, à mon avis, ce n'est pas une raison suffisante pour défendre Kibar de la part de Boko Haram. Et que Boko Haram, évidemment, peut-être au départ, personne ne voulait vraiment s'attaquer ouvertement parce qu'on savait que c'était des co-religionnaires. Mais maintenant, tout le monde a compris, ou du moins, dans la famille des collègues, les amis musulmans, que cela, ils n'ont rien de musulman et ils ne sont pas inspirés par le Coran. Et donc, vous voyez qu'il y a, comme je vous l'ai dit auparavant, qu'il y a désormais un lieu de bouclier et tout le monde comprend maintenant que c'est un risque très grave pour tout le Nigeria, qu'on soit chrétien ou musulman, peu importe. Parce que si Boko Haram devait prendre encore ses activités, cela va embraser la totalité du pays. On ne peut pas le laisser faire.
Merci beaucoup. C'était le professeur Tundonu Amosu, ancien vice-recteur de l'Université de l'État de Lagos à Lagos. Voilà, c'est tout pour cette édition du Dialogue des religions. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Serudia et de l'autre côté de la vitre, Joselle Morissa. Washington, la voix de l'Amérique.